RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin et ses invités.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine citoyen. Pourquoi, quand et comment les premiers Javanais sont arrivés sur le territoire et comment s'est passée leur installation, comment ont évolué leurs activités et leur culture. C'est aujourd'hui le thème de ce magazine citoyen avec nos trois invités. Thierry Timan, le président de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, Marcel Magui qui est historien et Charlotte Timan qui représente le groupe de musique Angklung Vibration. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour, selamat siang.
Et merci. Alors, vous avez dit bonjour en indonésien, Thierry Timan.
C'est ça, selamat siang, puisque nous sommes l'après-midi, en début d'après-midi.
On est en début d'après-midi. Hier, vous avez fêté l'arrivée des premiers contingents de travailleurs javanais en Nouvelle-Calédonie. C'était il y a 130 ans. On va évoquer cette histoire, bien évidemment. Mais peut-être la première question, Thierry Timan, c'est aujourd'hui, on évalue à combien la communauté javanaise en Nouvelle-Calédonie?
Alors, sur le recensement de 2019, il y avait à peu près 3800 personnes qui se sont déclarées d'origine indonésienne, ce qui représente à peu près 8 à 10% de la population totale. Donc voilà, on va dire qu'avec le métissage aujourd'hui, nous on estime plutôt entre 7 et 8 000 personnes qui sont d'origine. Javano-indonésienne.
Voilà, d'origine, parce que les premiers Javanais sont donc arrivés il y a 130 ans sur le territoire. Marcel Magui, c'était le 15 février 1896, hein, le premier contingent de travailleurs sous contrat.
Exactement. Mais pour une petite précision, pourquoi nous avons choisi le 16 février? C'est tout simplement parce que le Saint-Louis est arrivé en rade de Nouméa le 15 février à 18h. Et les premiers Javanais ont débarqué sur l'île aux Fraissinets, parce que c'était là qu'il y avait la quarantaine, le 16 février à 14h. Et ça, nous avons un écrit du gouverneur Feillet, qui a écrit et qui a averti le consul de France qui était à Batavia, l'ancien nom de la capitale Jakarta, en précisant que voilà, le 16 février, à 14h, ont débarqué 163 Javanais, les coulis, comme on les appelait à l'époque, sur l'île aux Fraissinets.
Alors 163 travailleurs qui sont venus en Calédonie, pourquoi?
Alors, tout simplement, c'est parce que le gouverneur Feillet est venu pour fermer le bagne, et il voulait en faire de la Calédonie une terre non pas de bagne, mais une terre de peuplement et de culture. Et donc il a lancé les cultures qui pouvaient être rentables pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France, parce que voilà. Et à l'époque, c'était le café qui rapportait beaucoup. Et donc, il a fait venir d'abord tout ce qui était les paysans ou bien les cadets des grandes familles françaises. Parce que il y avait le droit d'aînesse en 1896, hein, enfin avant même. Et donc, il a fait venir des paysans pour lancer la culture et le développement par une population libre de la Calédonie. Et il a pensé que le café, ça a été bien de lancer ça, parce qu'on était une terre de café.
Alors ces bateaux qui sont arrivés, ça s'est poursuivi jusqu'en 1955, et en tout sont quoi, 20 000 à peu près travailleurs javanais qui sont arrivés?
Le bateau qui est arrivé ici avec le dernier contingent de travailleurs sous contrat javanais, c'était en 1949. Par contre, à partir de tous les ans, enfin, parce que les travailleurs sous contrat javanais est venu ici avec un contrat de 5 ans, et au bout de 5 ans, ils étaient rapatriés. Et donc, à partir de 1945, la République d'Indonésie a été mise en place. Elle était devenue non plus une terre hollandaise, les Indes néerlandaises, mais la République d'Indonésie. Et à partir de 1951, il y a eu un consulat d'Indonésie qui a été mis en place ici. Alors, ce n'étaient pas des diplomates qui étaient mis en place, mais c'était des fonctionnaires du ministère du Travail, parce qu'on voulait rapatrier tous les Javanais qui étaient sous contrat, qui n'ont pas pu repartir. Et à partir de 51, ce consulat a été mis en place. Et à partir de 52, 53, et le dernier convoi de rapatriement est parti en 1955.
Alors, Charlet ou Thierry Timan, l'un des deux peut-être, ou les deux, est-ce qu'on sait comment s'est passée l'intégration des Javanais en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que la culture s'est développée rapidement? Est-ce qu'ils ont pu prendre leur marque facilement? Les ancêtres javanais qui sont arrivés, comment se sont passées les choses, Thierry Timan?
Alors, on va dire que l'intégration, suite au retour la fin des derniers convois, et grâce à ceux qui sont restés ici, les anciens ont forcé la génération qui est arrivée de s'intégrer par l'apprentissage du français en premier lieu. Donc beaucoup de notre génération, on a perdu la langue ou on ne l'a pas pratiquée du tout, la langue maternelle, la langue javanaise. Donc on a été un peu contraint d'apprendre le français. Ce qui n'était pas le cas sur les anciennes générations, puisqu'ils avaient un contrat de 5 ans.
Et voilà, ils savaient qu'ils allaient repartir un jour. Voilà.
Donc ils continuaient à pratiquer la langue. Là, il a fallu apprendre le français, aller à l'école, ce qui était une nouveauté aussi pour la nouvelle génération. Et à partir de là, il a fallu s'intégrer. Donc on a un peu mis de côté la langue, la tradition. Je le disais hier dans mon discours, beaucoup de la nouvelle génération a perdu la langue, ne la parle plus, a perdu les rites, les traditions, les us et coutumes, mais pour autant, on se rappelle qu'on vient de là-bas, on a des origines javanaises, on a certains rites à continuer. Donc voilà, au fil de temps, on essaie de réapprendre tout ça.
Oui, parce que tout le monde le dit, hein, la communauté javanaise s'est parfaitement intégrée aujourd'hui à la vie calédonienne. Justement, est-ce qu'il y a parmi les membres de la communauté un désir, peut-être, tout en étant parfaitement intégré, de retrouver ses racines, de parler la langue, de retrouver les éléments de la culture javanaise aussi?
Alors effectivement, on a beaucoup de sollicitations de jeunes, voire même d'anciens, qui reviennent vers les associations, qui viennent aussi au consulat, pour dire finalement on n'a pas appris tout ça, comment on peut se réapproprier notre langue. Donc l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, il y a 4 ans de cela, on a réouvert les cours de langue javanaise. Donc on apprend la base et puis on essaie d'évoluer au fur et à mesure pour apprendre le javanais qui se pratique à Java, parce que c'est quand même assez différent. Et beaucoup aussi de jeunes maintenant apprennent l'indonésien. Voilà, donc il y a ce retour aux sources, au niveau de la langue, au niveau des pratiques culinaires, au niveau des pratiques artistiques et culturelles, la danse, la musique. Donc voilà, on est là pour ça.
Alors parlons musique un petit peu avec vous, Shirley Timan, pour présenter le groupe. D'abord, Angklung Vibration, quel est ce groupe et quel est le type de musique qu'il pratique? C'est de la musique traditionnelle, c'est de la musique moderne?
Angklung Vibration, c'est un mode de vie de chez nous, en fait. C'est une façon de vivre, parce qu'on utilise, on pratique la musique, mais en même temps, on garde notre harmonie. Donc cette musique, ça crée de l'harmonie. Avec une note, on ne peut pas sonner. Avec plusieurs notes, on sonne bien. Donc, en convibration, il est créé depuis 2015. Et ce groupe-là, il mélange leur culture indonésienne, traditionnelle indonésienne, d'origine Java-Ouest, avec la culture moderne. Du coup, on essaie de mélanger et mixer la musique pour créer l'harmonie qui peut être acceptée dans tous les âges.
Dans tous les âges. Et les jeunes s'inscrivent pleinement dans cette démarche aujourd'hui?
Dans notre groupe, Angklung Vibration, il y a beaucoup plus de jeunes que... Je crois que c'est moi le plus âgé.
Marcel Magui, on a donc évoqué l'histoire de l'arrivée des Javanais, mais vous l'avez dit, le dernier convoi est rentré en quelque sorte en 1955. Comment ça s'est passé? On a proposé aux Javanais qui le souhaitaient de rester s'installer ici, et à ceux qui voulaient rentrer de le faire. Comment se sont passées les choses à cette époque?
Eh bien justement, ils avaient la possibilité de rentrer, et donc beaucoup n'ont pas pu partir, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, 1914-18, la Deuxième Guerre mondiale, donc il n'y avait pas eu de convoi.
Pendant
les périodes de guerre. Ensuite, les Indes néerlandaises ont été occupées pendant 5 ans par les Japonais. Et le temps que tout ça se calme, il n'y avait pas eu de rapatriement. Donc, quand les rapatriements ont pu se faire, beaucoup ont voulu partir. Mais il faut savoir que beaucoup ne sont pas partis. Enfin, il y a près de 2000 personnes qui ne sont pas reparties, soit parce qu'ils ne voulaient plus, soit ils ne pouvaient plus partir, parce qu'entre-temps, ils se sont mariés, ils ont des enfants, etc., etc., qui sont restés ici. Et c'est la base, ces 2000 personnes-là, qui sont parties après le dernier, qui sont restées après le dernier convoi de 55, qui ont fait la base de la population calédonienne. Moi, j'insiste sur le fait que maintenant, nous sommes des Calédoniens. On a des origines brestoises, tout ce qu'on veut.
Mais nous, on a des... ou autre.
Ouais, exactement. Mais nous, on est des Calédoniens d'origine indonésienne, de nationalité française. Oui. Même s'il y a un consulat général de République d'Indonésie, qui a 300 ressortissants qui sont toujours de nationalité indonésienne, parce qu'ils sont soit des diplomates ou bien des employés du consulat, soit sont des épouses qui n'ont pas pu encore être intégrées dans la nationalité française.
Mais pour vous, cette intégration, cette identité finalement javanaise, indonésienne, en Calédonie, dans une terre française, est quelque chose de vécu tout à fait facilement aujourd'hui? Les choses sont claires pour vous?
Oui, parce que moi je suis un pur produit de l'école de la République française. Même si beaucoup de mes parents, mes oncles, mes tantes, qui, par exemple, toute ma famille maternelle est née du côté de Negropo, à Canala. Alors,
C'est la question que j'allais vous poser aux uns et aux autres. Est-ce que dans cette histoire, vous connaissez, vous, évidemment, vous avez travaillé les uns et les autres, votre propre histoire familiale. Oui. Vous savez, vous, quel est le premier de votre famille qui est arrivé en Calédonie?
Oui, ce sont mes grands-parents, Sainam Sonokromo. Alors, j'ai pas trop de mérite parce que j'étais à l'origine de la création d'un comité du centenaire, parce que moi, j'étais formé à l'école de la République, je suis devenu professeur de français, d'histoire de géographie. Et moi, j'ai appris que mes ancêtres, les Gaulois. Et au bout d'un moment, je me posais la question, mes ancêtres étaient-ils vraiment gaulois? Donc j'ai fait des recherches. Il faut savoir aussi qu'on a tué cette histoire des Javanais, et puis même nos parents. Tout à l'heure, Thierry parlait de la langue, mais on nous a quelque part forcés à parler français pour mieux nous intégrer. Et nos parents, nos grands-parents, ont tué toutes les souffrances qu'ont vécues ces anciens qui sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés dans une terre inconnue. Ils ont pris un bateau, ils pensaient être allés dans un village à 30 km, ils sont retrouvés de l'autre côté avec des gens qui parlaient une autre langue, avec une population mélanésienne qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, ils se sont obligés d'être intégrés. Et puis, moi, j'ai fait en sorte de faire connaître cette population, c'est pourquoi ils sont là, pourquoi je suis venu là, pourquoi mes grands-parents sont venus là, et voilà.
Thierry Timan, vous connaissez votre histoire familiale ?
Alors, oui, j'ai retrouvé dans les archives de la Nouvelle-Calédonie les dates d'arrivée de mon arrière-grand-père, voilà, qui était arrivé sous contrat, donc les matricules, même le matricule de mon père qui est lui, est né à Farino, donc il avait également un matricule, on a retrouvé trace, à un moment donné, il est reparti en Indonésie avec son grand-père, donc en 1951, pour retourner en Indonésie, et 12 ans plus tard, il est revenu ici, puisque on dit l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, donc il a décidé de revenir là en 1962 pour refaire sa vie ici, après avoir travaillé pendant 11 ans en Indonésie, malgré qu'il n'ait pas connu l'Indonésie à sa naissance. Voilà. Donc oui, on est intégrés, on se sent calédoniens, on essaye de faire en sorte que notre génération sache son histoire, l'histoire de nos ancêtres, mais qu'ils apprennent également l'histoire des autres communautés. Voilà.
Shirley Timan, vous vous souvenez, vous connaissez vous aussi votre histoire familiale, comme ça on aura fait le tour sur ce plateau.
C'est autre monde, l'histoire de Marcel et Thierry. Alors je viens d'Indonésie, je suis née en Indonésie, je suis mariée avec Thierry, donc j'essaie d'apporter, comme tous mes camarades qui viennent d'Indonésie, nos savoir-vivre et de partager avec les autres qui sont là, avec les Javanais qui sont déjà là depuis des années, et avec nos amis. Mais particulièrement, l'association il m'a demandé de partager mon savoir-vivre, de parler javanaise par le cours de langue javanaise qu'il a parlé Thierry tout à l'heure. Et le consulat général d'Indonésie m'a demandé d'enseigner la langue indonésienne. Et ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de Calédoniens, pas que des Indonésiens, qui veulent apprendre cette langue.
Voilà. Qui veulent apprendre cette langue. Alors, on a parlé de la musique un petit peu, mais il y a un autre aspect de la culture indonésienne qui est très important. Il est midi et 21, il y a des gens qui sont peut-être à table. C'est évidemment les traditions culinaires de l'Indonésie. On en parle beaucoup. Pourquoi ces traditions sont réputées et marchent autant que ça, Thierry Timan?
Alors, je pense qu'il faut le demander aux Calédoniens eux-mêmes. Mais on a un souvenir que... Enfin, on rappelle que les anciens sont venus d'abord pour travailler dans les plantations agricoles, dans la mine, mais surtout dans la domesticité. Donc beaucoup, à l'époque, beaucoup de mamans étaient nounous. on nourrit les enfants qui, dont elles avaient la et charge.
C'est elle qui faisait la cuisine, en fait.
C'est elle qui faisait la cuisine. Donc, quand on regarde un peu, enfin, quand on écoute les anciens qui ont connu cette période-là, ils ont toujours ce goût de la cuisine javanaise. La nounou, elle avait fait des boulettes de pommes de terre, etc. Donc, on s'en rappelle. Et la chance que nous avons dans la communauté, c'est que notre cuisine est très appréciée. Alors, les cuisines asiatiques, généralement, elles sont très appréciées. Mais alors, la cuisine indonésienne, elle est très demandée. On a la chance et la malchance de ne pas avoir trop de restaurants qui proposent de la gastronomie indonésienne. Donc forcément, dès qu'on a l'opportunité de faire un stand, que ce soit sur un marché, dans une journée culturelle ou culinaire,
ou dans une fête,
on est forcément pris d'assaut. Aujourd'hui, on est fiers, puisque le bami, c'est tout le monde qui le fait, qui le consomme. Donc il n'y a plus de secret, les boulettes, tout le monde le fait, les gâteaux claquettes, tout le monde en mange, les paillettes, les rempaillettes, c'est galettes de lentilles ou cacahuètes, autour d'un petit verre, c'est apprécié.
Avec modération, bien sûr.
Avec modération, voilà. Mais cet aspect culinaire, on n'arrive pas à se l'expliquer, mais c'est un bon point pour nous, et ça montre aussi que nous sommes intégrés. Le soft power de la cuisine indonésienne a fait le forcing et a fait qu'aujourd'hui, cet art culinaire est apprécié, à tel point que l'association en 2015, quand j'ai pris la présidence de l'association, on a développé les cours de cuisine, tant pour adultes. Ensuite, les enfants ont demandé leurs cours, donc on a lancé tout ça, ça a fonctionné assez bien. Ça a été un petit peu suspendu suite aux événements, mais voilà, l'association, elle perd pas espoir. On est en train de se réorganiser pour organiser tout ça.
Un mot sur les traditions et les cultures javanaises, Marcel Magui.
Oui, écoutez, en parlant de cuisine tout à l'heure, c'est resté dans nos familles parce que on a ce qu'on appelle le culte des ancêtres, des anciens. Donc on fait des offrandes, donc ce que s'appelle le sachen chez nous. Et donc, à chaque cérémonie, on fait des plats qui sont spéciaux pour ça. Et ce sont nos mamans, nos tantes, nos grands-mères qui nous ont transmis toutes ces façons de faire, ces recettes. Et maintenant, nous les perpétuons. Et bien sûr, ça se perd parce que la société calédonienne est faite de métissage. Et même chez nous, on est une grande famille de métisses. Et donc, ça se perd. Mais on essaye de toujours faire de transmettre ces traditions culinaires et qui se retrouvent ensuite non plus que pour des offrandes, mais lorsqu'on fait des repas en invitant des amis parce que c'est un repas spécial, anniversaire ou autre, on fait ces plats-là traditionnels et ça devient des plats courants, entre guillemets. Par exemple, le bami, c'est ce qui... Alors le bami, il faut savoir que c'est un bami qui est calédonien, parce que si vous demandez un bami à Jakarta, du Jakarta, ils vont vous regarder avec des gros yeux, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était, là-bas, c'est le mie goreng, et nous, on l'a transformé ici parce qu'il n'y avait pas tous les ingrédients.
Une adaptation.
Une adaptation, et nos anciens qui étaient dans les plantations, ils n'avaient pas tous les ingrédients, donc ils avaient soit du chou, soit du haricot. Et ils n'avaient pas les pâtes, donc ils ont pris les vermicelles chinois qui avaient... Moi, je vous appelle maintenant les vermicelles chinois, c'est des pâtes de riz. Ils faisaient ça. Alors maintenant, même les étudiants en France, quand on a des enfants ou des neveux qui étaient étudiants en métropole, quand ils faisaient un repas entre étudiants, la première des choses qu'ils font, c'est un bami, parce que ça rassemble tout. Et il faut savoir aussi, dans le bami, il y a de tout. Il y a des légumes, il y a des pâtes, il y a de la viande. Donc c'est un assemblage, c'est un métissage de plats. Et j'ai vu que sur Internet, il y a même nos cousins, nos voisins, nos amis wallisiens ont revendiqué le fait que c'est un plat wallisien. Voilà, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est ça l'intégration. Et le partage...
Mais justement, oui, c'est la question que vous allez poser à Shirley Teman, que ce soit par la musique ou par l'art culinaire ou par d'autres aspects de la culture indonésienne et javanaise. Finalement, le fait qu'elles vivent naturellement en Calédonie, c'est le signe aussi de l'intégration de la communauté, quelque part, non ?
Bien sûr, On aime bien en Calédonie. Ouais. On s'intègre bien ici, même dans la cuisine, dans notre travail tous les jours. On continue à apprendre à vivre avec les autres et de partager avec tout le monde ici, sans sans hésitant. Voilà.
Est-ce que l'amicale que vous présidez, l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, a des projets, Thierry Timan? Vous avez parlé de les cours d'indonésiens qui ont repris. Est-ce que vous avez d'autres comme ça, d'autres idées, d'autres projets dans vos cartons?
Il y a toujours des projets. Après, c'est les bénévoles qui deviennent manquants. Hein. L'histoire récente montre qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis.
C'est pas
compliqué pour tout le monde. Mais oui, on a des projets. On a des projets de relancer tous les cours de l'association. Hein. Devraient débuter les cours de danse. On redébuté les cours de Hangklung le vendredi soir. Donc les cours de danse le mercredi. On va redébuter les cours de langue. On est en train de choisir le jour parce que par rapport aux agendas.
Bon moment.
Voilà. Mais tous ces cours sont en gestion. On va dire ça comme ça. Et puis, on a des projets de collaboration aussi avec toutes les communautés du pays, puisqu'aujourd'hui, on est indonésien, mais on est aussi vietnamien, chinois. J'en profite pour souhaiter Chukmun Namoy et Kwanti Vatsai à nos amis asiatiques.
Ça veut probablement dire bonne année.
Bonne année, la bonne année du cheval. Mais voilà, on travaille aussi avec les Antillais, on travaille avec les Kanaks, tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui veulent collaborer avec nous, on est là pour partager, c'est le but de l'association. Donc on aura des projets, et notamment pour ce 130e année anniversaire de la commémoration, de faire de la fusion. Donc on appelle à... Moi, je fais, en qualité de président de l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, appel à tous ceux qui voudraient faire du partage, de la transmission pour... le bien de notre jeunesse.
Voilà. Marcel Magui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a depuis, un peu après la fin de la guerre, une représentation diplomatique indonésienne en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est important pour structurer aussi la vie de la communauté ?
Je ne sais pas si c'est important, mais ça a une importance pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir une représentation diplomatique, tout comme les autres communautés, hein, parce que les relations avec l'Indonésie et la France sont très bonnes. Et on a quand même une histoire commune entre l'Indonésie, enfin les Indes néerlandaises qui est l'Indonésie maintenant, avec il y avait plus de 20 000 javanais qui sont passés sur le territoire. Hein, et quand les derniers sont repartis, il restait 2 000. Mais ce sont ces 2 000 qui ont fait souche, et cette histoire est très importante. Mmh. Donc qu'il y ait une représentation ici, ben, je pense que c'est très important, ne serait-ce que pour au niveau de la communauté indonésienne d'Indonésie, de la communauté calédonienne d'origine indonésienne, mais aussi pour tout ce qui est l'économie du territoire, hein, parce que bon, maintenant on parle du nickel qui nous ont fait du mal, les Indonésiens, là, avec leurs usines.
Oui, voilà. Apparemment, ils vont calmer un peu sur la production.
Voilà, c'est ça. Mais bon, on a quand même un petit... une histoire commune, quoi. Ouais, donc, ouais. Oui, c'est important qu'il y ait une représentation diplomatique ici, oui.
Pour tous ceux qui s'intéressent à cette histoire de la communauté indonésienne et javanaise en Calédonie, il y a des ouvrages qui existent, Marcel Magui ?
Oui,
Parce
oui.
Parce que
oui,
vous avez l'air de tout connaître, vous n'avez pas écrit un livre par hasard ?
J'ai collaboré. Ouais. Ça s'appelle « Les javanais du caillou ». Et c'est des affres de l'exil aux aléas de l'installation.
Voilà, mais qui permet d'avoir toute l'histoire en continu.
Ouais. Alors, ce qu'on a fait, on n'a pas voulu faire un livre que universitaire, enfin, de notre côté, hein, parce que je parlerai des autres après. On a mis des tranches de vie. Donc, ceux qui veulent... Malheureusement, ce livre est...
Épuisé.
On a quelques exemplaires encore à l'association. Donc, ceux qui veulent vont à l'association. Je peux donner le prix. Il est en vente à 4000 francs, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc, précipitez-vous. Hein.
Ce qui est rare et cher.
Ah ouais, exactement. Et donc, on a fait ça avec un indonésianiste qui était à l'université de Genève. Donc, voilà. Et on a mis des tranches de vie. Et on a mis aussi l'évolution de la communauté dans l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait que c'est un ouvrage qui est généraliste, qui nous permet d'apprendre tout ça. Sinon, il y a Catherine Adi qui a écrit une histoire, enfin l'histoire déjà des Indonésiens, mais au filtre de sa famille. Sinon, on a le premier qui est sorti en collaboration avec le Centre de documentation pédagogique, à qui aussi j'ai collaboré, c'était au CTRDP, et c'était Madame Fida Yanti Mulyono Larue, qui a écrit Les Indonésiens de 1896 à 1950, et ensuite elle a fait un deuxième ouvrage. Voilà. Mmh. Et malheureusement, tous ces ouvrages sont épuisés ou presque, sauf celle de Catherine Adi qu'on peut le retrouver. Et ensuite, il y a des gens qui ont écrit des nouvelles. Marc Bouan, Madame
Liliane Saint-Omer.
Et puis Madame Amsi,
Enfin voilà, il y a des histoires aussi.
Voilà, voilà. Donc on peut trouver à la bibliothèque de l'AINC, de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, ces ouvrages qu'on peut emprunter. Hein. Et puis on a des relations.
Comment ?
Contre-restitution.
Contre-restitution obligatoire.
J'ai dit emprunter.
On a bien dit emprunter.
Ils ont emprunté des livres et malheureusement...
Ils ne reviennent pas toujours. Ouais.
Ouais. Donc si on veut connaître l'histoire, pour l'histoire, il serait bien aussi que cette histoire, aussi bien de la communauté d'origine indonésienne, calédonienne, des autres communautés soient aussi mises dans les programmes de l'école primaire, secondaire, etc.
Voilà, un petit message à l'occasion de la rentrée scolaire. C'était le bon
Exactement.
Moment.
Exactement. Un ancien prof, oui, malheureusement.
Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission pour nous parler de cette communauté javanaise et indonésienne de Nouvelle-Calédonie à l'occasion du 130e anniversaire de l'arrivée du premier convoi de travailleurs sous contrat. C'était en 1896. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission qui sera disponible en réécoute pour ceux qui le souhaitent sur notre site internet rrb.nc. Je vous souhaite une belle après-midi.
Le magazine citoyen avec la Province Sud, une province citoyenne.
La Province Sud, agir pour l'avenir.